téléchargez l'application Radio France pour découvrir. Écoutez des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct.
Bonjour, je vous propose une émission faite avec Alain Corbin en 2006. Le bruit des cloches, bonheur ou nuisance, nouvelle diffusion.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1840.
Événement pittoresque. À Paris, dans un couvent de dominicaines, son éminence le cardinal Verdier, archevêque de Paris, procède à la bénédiction de trois nouvelles cloches. La cérémonie prend une très grande ampleur. Les célèbres petits chanteurs à la croix de bois prêtent leur concours à cette
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voilà quelques semaines, j'ai été frappé par un article du Monde, c'était le 7 octobre 2006, et la signature était celle de Pascal Robert-Diard, un article intitulé « Les cloches des vaches, mélodie des montagnes ou nuisance sonore ». Il s'agissait d'une querelle de voisinage survenue au hameau dit Les Huguets, sur la commune de Saint-Offenge-Dessous en Savoie, non loin d'Aix-les-Bains, entre un éleveur de vaches laitières et un dessinateur industriel. Les cloches, accrochées au cou des vaches du premier, agitées nuit et jour sous les fenêtres du second, l'empêchaient, disait-il, de dormir, leur nuisance sonore dépassant de 5 décibels le seuil de tolérance. Soutenu par l'ensemble des organisations agricoles, son adversaire a aussitôt répliqué que les cloches étaient un instrument de travail, je cite, et la précieuse musique des montagnes. La querelle s'est envenimée au fil des ans jusqu'à être portée au tribunal et à devenir le symbole d'une bataille entre les ruraux et ceux qu'on appelle désormais les rurbains, autrement dit les citadins vivant à la campagne. Un tel affrontement est-il donc le fruit des déséquilibres de notre modernité? Eh bien, pas du tout. Non seulement les clochettes des vaches, mais surtout les cloches des églises, cathédrales, prieurés et autres couvents ont été bien souvent, depuis des générations, au cœur d'émotions collectives qui méritent assurément d'être évoquées, décrites et interprétées dans le cours d'une histoire des sensibilités sur le long terme. Nous allons le faire avec Alain Corbin, professeur émérite à la Sorbonne, qui a écrit un livre précieux sur ce thème et qui détient, je crois bien, le record des invitations à ce micro, tant il a ouvert de pistes et défriché de domaines neufs au grand bénéfice de la curiosité historique.
Sur un sentier de vert printemps, plein de fleurs en papier, on va courir les petits enfants, on va trotter leurs pieds. Ils vont le long des ruisseaux, font bonjour aux oiseaux. Ils se battent à coups de poing, tandis qu'on entend au loin, ding-dong, écoutez la cloche, enfants en galoche. Aïe donc, la cloche fait ding-dong, ding-dong, la cloche de l'école vous appelle Nicole. Gaston, la cloche a fait ding-dong. Il faut courir pour apprendre ses leçons et devenir de belles filles, de grands garçons. Ding-dong, écoutez la cloche ou gare aux taloches. Aïe donc, la cloche a fait ding-dong. Pour sa demande, le fiancé sue dans un col cassé, en jaquette, en souliers vernis. Il a l'air abruti, il bafouille devant papa, qui ne le comprend pas. Puis il dit, j'adore Madeleine, aussitôt tout s'enchaîne. Ding-dong, écoutez la cloche, le mariage est proche. Allons, bah, la cloche fait ding-dong, ding-dong, la cloche du baptême, un enfant qu'on aime. Allons, bah, la cloche fait ding-dong. Puis le temps passe, et l'on devient un homme sérieux, très sérieux. Et dans la classe, on se dit, bon, je suis pas trop vieux, non. Ding-dong, mais la vie va vite, la jeunesse vous quitte. Allons, la cloche a fait ding-dong. Un jour, on se sent rap-la-pla.
Il y a quelque chose qui ne va pas.
On n'entend plus bien d'une oreille.
Et de l'autre, c'est pareil.
Dans son fauteuil, on revoit ce qui fut autrefois. Premiers amours, doux frissons, c'est la fin de la chanson. Écoutez la cloche, la méchante cloche. La cloche a fait ding-dong. C'est la cloche funèbre, le glas des ténèbres. La cloche a fait ding-dong.
Je vous reconnais, dit Saint-Pierre, vous êtes Monsieur Durand.
Voyons, qu'avez-vous fait sur la terre, la vie Durand?
J'écoutais les cloches.
Vous n'avez rien fait de moche?
Moi? Non. Entrez! Mais entrez donc! Les cloches font ding-dong!
Alain Corbin, bonjour.
Bonjour.
C'était Charles Trenet qui chantait Ding Dong en 1944. Nous voilà aussitôt dans un des thèmes qui vous ont intéressé, c'est-à-dire les âges de la vie.
Oui, c'est un des grands thèmes de la littérature romantique. Quand on parle des cloches, on parle des rites de passage, des âges de la vie. Les romantiques avaient une grande admiration pour un poème fondamental, c'est celui de Schiller sur ce thème-là. Et ça n'a cessé d'être repris au cours des siècles. Et là, vous évoquez le lendemain de la guerre, vous avez choisi la chanson de Charles Trenet, il y aurait aussi celle des Compagnons de la Chanson et d'Édith Piaf et bien d'autres. Mais dans la littérature classique, française et romantique, on pourrait aussi faire allusion au poème de Lamartine, par exemple. L'idée, en quelque sorte...
Le poème sur les,
Sur les villages, les cloches de village. Pourquoi ce succès au moment du romantisme? Je crois que ça correspond à l'approfondissement du sentiment du moi. Ça s'accorde très bien. La récapitulation des âges de la vie d'une part, la récapitulation des rites de passage, ça s'accorde très bien au sentiment d'individuation de plus en plus accentué.
En violent contraste d'ailleurs avec les fureurs, les hargnes du XVIIe siècle contre le bruit des cloches. On se rappelle Boileau qui stigmatise en disant ces cloches qui pour honorer les morts font mourir les vivants. Non, c'est pour marquer une différence majeure avec ce romantisme qui a sûrement plus marqué Charles Trenet que Boileau ne l'a fait.
Sans doute, parce que Boileau est bien oublié aujourd'hui.
Vous avez abordé ce thème des cloches, et quand vous l'avez fait, c'était très nouveau. Il y avait une sorte de discrédit au fond sur tout ce qui était Bourdon, Carillon, cloche. Le fameux roman de Gabriel Chevalier qui s'appelait Clochemerle, qui a été un grand succès en 1934, avait pu contribuer d'ailleurs à cette
dérision,
sorte de dérision. Oui,
oui, il est évident que cette dérision atteignait la ruralité, la petite ville dans son ensemble, la petite ville fervente, avec son bedeau ridicule, etc.
Entre les cloches et l'urinoir, c'est pas
oui, c'est très lié à un anticléricalisme, qui trouve d'ailleurs ses racines peut-être aussi dans les débats anticléricaux à propos des cloches au moment du triomphe de la République.
Alors qu'il y a toute une littérature campanaire que vous avez contribué à mettre au jour, en restituant d'ailleurs sa vie à cet adjectif assez oublié, campanaire.
Oui, vous pensez qu'il est oublié.
C'est vous qui le dites dans votre livre, vous dites que...
Oui, l'époque. À l'époque.
Je le pense après vous voyez, je me couvre de votre autorité.
Mais je me suis aperçu depuis qu'il n'était peut-être pas aussi oublié que cela.
Alors,
il existe
bien
une société française de campanologie, des musées de campanologie, campanaire.
À la Garenne-Colombe, j'ai découvert ça aussi, oui. Alors si je m'abrite sous votre autorité et qu'en plus vous changez d'avis, me voilà bien.
Les choses ont évolué ces dernières années très rapidement.
Venons-en, si vous le voulez bien, à une expérience que vous avez eue vous-même. Après tout, dans certains cas, l'historien peut se mettre en scène. C'était à Lonlay-l'Abbaye.
Oui, c'est une expérience forte. Mais il faut que je sois court, parce que j'aurai énormément de choses à dire sur cette aventure qui s'est déroulée en 1958. Lonlay-l'Abbaye est une petite commune, mais un gros bourg, du bocage profond de la Basse-Normandie, dans l'Orne, la limite de la Manche. Et il y a là les restes d'une abbaye bénédictine. C'était alors une campagne extrêmement fervente. Il y avait 6 messes le matin du dimanche et l'église était pleine presque à chaque une de ces messes. Et cette commune avait été partiellement détruite en 1944, ce qui n'est pas étonnant. Donc l'église avait perdu ses cloches pendant un temps. Et comme les agriculteurs avaient absolument besoin de se repérer dans la journée, le maire avait décidé d'acheter une sirène et de faire sonner la sirène à midi. Cette sirène était au-dessus de la maison que j'habitais avec ma famille, ce qui était quand même une nuisance assez forte.
Et on va voir que le conflit n'est pas entre les cloches et le silence, mais entre les cloches et la sirène.
Voilà. La fonction des cloches, c'était d'indiquer l'heure aux agriculteurs qui vivaient très loin, parfois jusqu'à 6 ou 7 kilomètres de l'église et de la mairie. Et donc, il y a une sirène sur la mairie. Et ensuite, les cloches sont revenues, évidemment. L'église a été restaurée, les cloches sont revenues. Et les gens du bourg ont estimé, et les conseillers municipaux du bourg ont estimé qu'il fallait arrêter cette sonnerie de la sirène le midi.
Il ne servait plus à rien, puisque les cloches étaient revenues.
Et de revenir les cloches. Mais, les agriculteurs qui s'étaient habitués au son de la sirène trouvaient que le son des cloches était insuffisant et que parfois ils ne l'entendaient pas. Donc le conseil municipal a été divisé en deux, les sirénistes et les anti-sirénistes.
Farouche combat,
à peu près égal, mais des manifestations se sont déroulées. Les agriculteurs sont descendus, non pas avec des fourches, etc., mais il y a quand même eu quelques jets de pierre, je me souviens, pour s'en prendre aux gens du bourg. Le boulanger, le notaire, le médecin, etc., accusés d'être en défaveur de l'opinion des gens de la campagne. Ça a fait beaucoup de bruit. Europe numéro 1 avait envoyé un reporter, François l'avait mis à la une, et le maire a eu un infarctus, hélas.
Sous l'effet de ses émotions.
Peut-être est-ce sous l'effet, je ne sais pas, mais enfin, finalement, c'est ainsi que l'affaire s'est dénouée.
Ça comptait beaucoup plus sur place que le retour du général de Gaulle, mai 58,
je ne sais pas, etc. D'une certaine façon, je pense. Et d'autre part, donc, le conseil municipal en délégation a été demandé à un ancien député qui habitait la commune de prendre en main la mairie pour réconcilier les populations. Cet ancien député socialiste, par ailleurs, a accepté et la paix est revenue.
Et vous racontez dans la réédition en poche de votre livre sur les cloches de la Terre que quand vous avez voulu venir avec une télévision, avec FR3, sur place pour évoquer tout ça, la municipalité l'a refusé en expliquant qu'il ne s'agissait pas de gratter
des plaies. C'est ce qu'on m'a dit, Verdroy, que le maire de l'époque était défavorable, qu'il ne fallait pas rouvrir de vieilles blessures, de vieilles cicatrices, voilà.
Donc et vous puis, étiez là.
J'ai reçu aussi quelques lettres en disant que c'était pas très judicieux de revenir sur cette affaire, ça ne faisait jamais que 40 ans et que tout n'était pas refermé.
Vous courez moins de risques que le jeune adolescent évoquant ses souvenirs quand vous revenez dans les archives pour traiter du cas de Brienne, que j'ai trouvé également très, très intéressant. Brienne avait cessé d'être Brienne le Château pendant un temps, et ça nous amène à la Révolution.
Il faut partir de la Révolution. Vous savez fort bien qu'on a descendu des cloches pour fabriquer des canons. C'était l'occasion de troubles, parfois, dans les régions très ferventes, le jour de la descente des cloches, de même que les femmes voulaient défendre le trésor de l'église, les ciboires, les ostensoires, le linge sacré, etc. Dans beaucoup de régions, il y a eu des troubles à cause de la descente des cloches, de la fusion des cloches.
Vous arrivez à l'idée que 100 000 cloches venant de 60 000 clochers auraient été détruites.
Oui, ça a été un des grands moments.
100 000.
Peut-être pas plus grave que les guerres de religion, d'ailleurs. Les guerres de religion avaient déjà été un traumatisme campanaire, si vous voulez, extrêmement fort.
Voilà, nous utilisons l'adjectif avec volupté.
Mais la campanaire. La révolution a été terrible. Et il a fallu reconstituer, effectivement, des cloches. Mais certaines de ces cloches, beaucoup, grand nombre de ces cloches n'avaient pas été fondues, elles avaient été mises dans des dépôts. Donc, il y avait des cloches à récupérer au moment du consulat. Et les maires se rendaient dans ces dépôts pour essayer de récupérer les cloches. Alors, chacun ramenait sa cloche ou ses cloches. Certains se trompaient, volaient la cloche, évidemment, de la commune voisine parce qu'ils la trouvaient plus belle.
Effroyable querelle.
Mais les paysans et les habitants, les paysans, les ruraux de l'époque, avaient gardé dans l'oreille, ça c'est ça qui m'intéresse, avaient gardé dans l'oreille le son de leur cloche. 5 ou 6 ans après. Elles étaient capables de dire ce n'est pas la nôtre ou ce ne sont pas les nôtres.
Pour donner une idée de cette extraordinaire diversité des sons dont on n'a pas la mesure, je vais vous faire entendre le témoignage d'un fabricant de cloches qui développe justement ce thème. C'est un extrait d'Interactualité du 22 avril 1973. Écoutez.
C'était seulement en 1937 qu'on a réussi à redécomposer le timbre, toutes les notes qui composent le timbre de la cloche. Exactement comme le prisme décompose la lumière, on a trouvé le moyen d'analyser et de toutes les harmonies, toutes les notes qui composent le timbre d'une cloche. En effet, la cloche produit toute une gerbe de sons. Et l'art du fondeur, c'est de composer cette partition de façon à ce que la note soit très pure, très sonore et est un timbre extrêmement agréable.
Le fondeur doit donc être avant tout un musicien.
Le fondeur doit essentiellement être un musicien. Le fondeur n'est jamais content de lui. La cloche parfaite, telle qu'il la rêve, n'est pas encore née. On peut toujours faire mieux. Il y a un nombre de combinaisons considérables. Moi-même, j'ai dessiné plus de 10 000 profils différents, chacun s'inspirant de l'autre, car chaque pays ne veut pas des cloches qui sonnent de la même façon. Et chaque pays veut des cloches particulières, non seulement au point de vue sonorité, mais même dans le mode de sonnerie. Les timbres ne sont pas les mêmes. On veut des timbres très chauds dans le nord, dans l'est de la France, des timbres très moelleux, des timbres plus chantants en Bretagne, des timbres plus claironnants dans les pays saxons, par exemple. C'est le fondeur qui, en modifiant les courbes de la cloche, compose véritablement le timbre, compose la symphonie de sa cloche.
Quel talent Alain Corbin, quelle curiosité, quelle science. Un des grands charmes de cette littérature campanaire, c'est de faire ressurgir des personnages extraordinaires, notamment ce fondeur qui avec son carnet de notes au 19e siècle, entoure sonar d'un certain secret, qui connaît le chant des cloches, qui sait repérer celles qui souffrent d'une filure ou d'une brisure, et puis quand il procède à la fonte où elle a coulé, qui immobilise tout le village.
Oui, tout le village venait. Et en plus de ça, le fondeur malin persuadait les gens de jeter quelques bijoux en leur assurant que le son serait plus moelleux ou plus riche, comme il vient d'être dit. Et en fait, il semble qu'il récupérait ces bijoux qui ne passaient pas véritablement dans le métal, en quelque sorte. Mais ce qui me frappe, à entendre le fondeur, c'est qu'il parle de régions campanaires, la Bretagne, l'Est, le Nord, mais je crois qu'au XIXe siècle, cela se décomposait en communes, en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque commune avait ses cloches, avait sa sensibilité campanaire, son langage campanaire, sa rhétorique campanaire, et donc était capable, effectivement, des années après, de reconnaître le tintement, ou du moins la sonorité particulière de la cloche.
Extraordinaire géographie sonore. Moi, j'ai promis qu'on évoquerait, après votre village, le village de Brienne-le-Château au moment de la Révolution.
C'est plus qu'un village, Brienne-le-Château à l'époque.
Je vais recevoir des courriels.
Petite ville. oui, ça m'intéresse pour une double raison. D'abord, parce qu'il y a eu une émotion extrêmement forte à propos, justement, d'une installation ou des centres, de cloches. C'est-à-dire des manifestations notamment féminines et juvéniles, les femmes embrassant, les femmes pleurant, les femmes amenant les enfants. Je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux au début du 19e siècle. Ça marque encore une fois l'importance accordée au rite de passage, au baptême, à la géographie sentimentale, à la sensibilité locale. Tout ça était extrêmement fort.
Une vraie émeute au moment de l'adjudication de la cloche.
Oui, et si l'on songe que le jeune Bonaparte était à Brienne et que, comme tout romantique, il était extrêmement attaché au son des cloches. Hein. On raconte, c'est Brienne, je crois, qui le dit, que lorsqu'il se promenait à Saint-Cloud avec des invités ou des gens qui se promenaient avec lui,
mémoire de Brienne,
il les faisait se taire au moment où on pouvait entendre des cloches, parce que il voulait s'en repaître, en quelque sorte. Et il est dit aussi dans le mémorial de Las Cases qu'il regrette l'insuffisance ou l'absence, je ne sais plus, de cloches à Sainte-Hélène. C'est une des choses... Donc, en parlant de Brienne et en évoquant Sainte-Hélène, en quelque sorte, on relie là toute la destinée d'un héros romantique, malgré tout, qui était extrêmement doué, en quelque sorte, dans le domaine de la sensibilité campanaire.
Il y a une densité du réseau sonore dans ce 19e siècle dont nous, hommes du début du 21e, avons perdu quelque peu la mémoire.
On a perdu vraiment restituer. Oui. On a perdu complètement la mémoire. Je dirais même que c'est en 1789 qu'est le pic, qu'est le sommet, qu'est l'apogée de cette densité. Si vous songez à la Normandie, par exemple, pensez que...
Votre chère Normandie.
En plus des communes, en plus des villes, hein, des communes rurales, et en plus des églises des villes, des cathédrales de Bayeux, de Lisieux, de Cé, de Coutances, etc., il y avait les grandes abbayes normandes, qui avaient un nombre de cloches énorme, et qui ont été détruites. Donc, je crois qu'il y a un grand moment campanaire, si vous voulez, c'est la veille de la Révolution. Cela dit, il y a une reconstitution au cours du 19e siècle et du 20e siècle, parce que là, on aborde un autre problème, qui est le rapport entre la densité des cloches, l'usage des cloches, et l'attention qu'on leur porte. Enfin, ça, on pourra en parler plus tard.
Densité souvent formidable. Michelet dit qu'il y aurait eu 500 cloches à Rouen, 500.
Ah oui, mais Saint-Pierre-sur-Dive, 14 cloches, je crois, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez, donc, on n'a plus idée de cela.
Ça, dès le 19e siècle, un certain nombre de spécialistes, qui avant vous, Alain Corbin, s'intéressent aux cloches, regrettent déjà qu'il y ait une diminution de la présence des sonneries. Et je vois là qui écrit « Les beffrois actuels de nos églises ne sauraient donner une idée des anciennes sonneries, composées quelquefois de 12 et même 18 cloches. L'ébranlement, écoutez bien, l'ébranlement causé à l'atmosphère par le retentissement de toutes ces cloches jetait dans les têtes une sorte de vertige qui détournait l'esprit de toute préoccupation étrangère. »
Oui, mais celui qui a habité sous un clocher. Pensez au début du roman de Zola, Le Rêve, qui commence justement par les impressions d'une jeune fille qui est littéralement sous les cloches d'une cathédrale.
Ça lui fait quel effet?
Ah ben, c'est un effet qui...
Je ne me rappelle plus.
Ça détermine sa vie, d'une certaine façon. Tout ce roman, Le Rêve, qui est un roman séraphique, je ne sais pas comment dire. Mais là, l'impression des cloches... Mais tous ceux qui ont habité sous les cloches comprendront fort bien cela. Et pour le comprendre, d'ailleurs, je voudrais reprendre le mot d'un grand historien d'histoire des religions, Michel Lagrée, disparu prématurément, qui dit que pour comprendre ce phénomène des cloches, il faut avoir soi-même des archives intérieures. Le souvenir de l'impression que produisent les cloches. Ce n'est pas uniquement dans les textes.
Le
on
vertige.
Va pouvoir le comprendre.
Le vertige, oui, ce vertige.
Ça, oui.
Et puis aussi la relation avec le temps de la journée, parce que les cloches ont longuement marqué un temps cyclique par rapport au temps linéaire qu'introduisent les horloges.
Bien sûr, le temps.
Le moment de l'arrivée des horloges est très important par rapport quant aux relations
entre l'homme et... Oui. Si je puis dire, oui, c'est le temps de l'activité.
Bien sûr,
le temps, l'activité laïque, alors que le temps qui est scandé par les trois sonneries de l'Angélus, c'est absolument fondamental. La France du 19e siècle, la France rurale du 19e siècle, c'est la scansion, c'est vraiment celle-là, hein, avec les trois petits tintements auxquels succède la volée. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais on ne les entend plus parce qu'on ne les écoute plus, ou on les écoute moins. Mais c'est plus que scandé, hein, l'Angélus, c'est aussi rappelé. C'est aussi rappeler les mystères du christianisme, hein, l'incarnation et de la rédemption. Hein. Donc, ça donne au matin, au midi et au soir une connotation religieuse en accord avec les mystères de la religion chrétienne.
Alors, il faut naturellement mettre l'accent sur ces relations entre les cloches et la religion, parce qu'il y a une opposition entre son laïque et son religieux au XIXe siècle. Je vais vous faire écouter une archive. Le cardinal Verdier, archevêque de Paris, baptise, je ne sais pas si le mot est juste, vous nous le direz, baptise 3 cloches à Paris, dans un couvent de dominicaine, le 18 juin 1939.
Événement pittoresque. À Paris, dans un couvent de dominicaine, son éminence le cardinal Verdier, archevêque de Paris, procède à la bénédiction de 3 nouvelles cloches. La cérémonie prend une très grande ampleur, les célèbres petits chanteurs à la croix de bois prêtant leur concours à cette fête. Et les nouvelles voix de bronze des nouvelles baptisées résonneront bientôt au-dessus de Paris. Ses accents aux sonorités puissantes des nouvelles cloches. Voici que du fond du cloître s'élèvent les voix harmonieuses et pures des petits chanteurs à la croix de bois.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Vous entendez dire Alain Corbin pendant que nous écoutions cette archive un rythme claudélien. Vous allez jusque-là?
Oui, de dire que c'était l'éloquence de l'époque.
Et celle des actualités de cinéma aussi.
Oui.
Une espèce d'étrange solennité. Mais j'ai dit baptême, est-ce qu'il faut dire baptême ou bénédiction?
Alors, il s'agit d'une bénédiction. Ne confondons pas, le baptême est un sacrement dans la religion chrétienne, et donc les cloches ne sont pas à proprement baptisées. Les cloches sont bénites.
Il peut y avoir des marraines, c'est peut-être pour ça, c'est comme les bateaux.
Oui, voilà. Alors, c'est comme on choisit un parrain et une marraine, tout au long du XIXe siècle, il s'agit surtout d'aristocrates ou d'édiles, des gens qui ont des responsabilités. On choisit un parrain et une marraine, donc on parle du baptême d'une cloche. Mais dans la perspective liturgique, il s'agit d'une bénédiction. Et cette bénédiction est très importante parce que, dans la même perspective, si vous voulez, le son de la cloche ouvre aux yeux des catholiques, surtout du 17e, 18e, parce qu'après on a parlé de superstition dès le 18e, on a critiqué ça, ouvre le chemin des bons anges, en quelque sorte. Le son de la cloche leur permet aux bons anges de refouler les mauvais, c'est-à-dire tout ce qui relève du diabolique, l'orage, la grêle, tout ce qui menace les récoltes, etc. Donc le son de la cloche et sa bénédiction a une vertu qui est en général indiquée sur le bronze. Telle cloche chasse les tempêtes, préserve des orages, etc. Tout ça en latin. Il y a toute une série de formules qui expliquent l'importance de la bénédiction.
Il y a toute une étude à faire de ce qui est inscrit sur la cloche.
Bah, c'est fait. En fait, je veux dire, c'est en cours. Hein. Oui. C'est en cours.
Vous parliez de ce qui apparaît comme une superstition à partir du 19e siècle.
Abbé Thiers, par exemple, dans son traité des superstitions, s'en est pris à cela. Parce que on s'imaginait donc que cela préservait des orages, notamment, essentiellement. Mais c'était source de conflits. C'est-à-dire que, entre deux communes et parfois entre deux églises du haut et du bas du bourg, c'était à qui sonnerait le premier pour faire reculer l'orage, pour que l'orage tombe sur le voisin. D'ailleurs, il paraît que ce n'est pas totalement dépourvu de fondement, que c'est-à-dire que le bruit est capable d'avoir quelques effets. Enfin, ça, c'est pas, je ne suis pas compétent pour parler de ça.
Spécialisation du politique et du voilà, social, tout alors, à fait passionnant.
J'ai trouvé, pour ma part, un grand nombre de conflits de ce genre.
Dans les archives départementales.
Oui, dans les archives départementales. On accusait les voisins d'avoir sonné pour vous envoyer, en quelque sorte, les nuées. C'est-à-dire la grêle, surtout. Terrible, parce que ça détruit les récoltes. Ce n'est pas anodin, cette affaire de préservation. La cloche est préservatrice.
Et puis, à mesure que le 19e siècle avance, on voit ces enjeux de pouvoir s'organiser de plus en plus entre cléricaux et anticléricaux. Et là, les acteurs, ce sont les évêques, les préfets, les curés, les maires, les instituteurs,
c'est
les gendarmes, parfois les ministres eux-mêmes. Et c'est un élément de la politique au village.
Ah oui,
et c'est passionnant.
Ah oui, mais c'est multiforme. Par exemple, le droit d'être sonné, ça paraît invraisemblable en ce qui concerne le 19e siècle, mais ça existait. C'est-à-dire que on pouvait sonner l'arrivée du préfet, de même qu'on sonnait l'arrivée de l'évêque. Mais vous imaginez, là, déjà, les conflits potentiels entre cela.
Donc, Camillo et Pépone à la française.
Et puis, on pouvait un curé particulièrement clérical ou légitimiste, partisan des Bourbons, etc., pouvait s'amuser à sonner le passage de tel aristocrate. Pensez dans les pays de la Vendée. Et évidemment, c'était
l'indignation des républicains.
L'indignation des républicains. Ça, c'est les petites choses. Mais les grandes choses, c'est le fait de pouvoir rentrer dans le clocher de la part du maire et de pouvoir sonner. Et surtout, de pouvoir sonner d'une certaine manière. Parce qu'au 19e siècle...
C'est-à-dire
au 19e siècle, on ne conteste jamais, pratiquement, au pouvoir laïque, enfin civil, je sais pas comment, pas au pouvoir du maire, de teinter.
Alors que c'est avant la loi de 1905 qui va donner la propriété.
Non, 1880.
Bien avant, je dis, c'est avant, oui, ça n'est pas encore propriété.
Mais on le laisse teinter. Mais à partir du triomphe de la République...
Teintez donc, monsieur le maire.
À partir du triomphe de la République, il est indiqué que le maire a le droit de sonner à la volée le 14 juillet, à la volée. Alors, quant au 19e, on teinte, le maire fait teinter parce que le percepteur va venir, parce que le taureau communal arrive, parce que c'est le jour de la corvée, c'est-à-dire des travaux sur les routes. En général, le curé ne conteste pas.
Même le taureau a droit aux cloches.
Oui, parfois, j'ai trouvé le cas. Ou alors le ramassage des ordures, etc. Bon, mais le jour où le maire a reçu le droit de rentrer, et on imagine de quelle manière le maire pouvait rentrer dans l'église, le maire anticlérical pouvait rentrer dans l'église pour sonner à la volée, ce que n'a jamais eu ce droit, c'était vraiment réservé au pouvoir ecclésiastique.
Alors que le même maire restait aux portes lorsqu'il y avait des enterrements religieux à l'église.
Oui, sonner à la volée le 14 juillet. Donc, je cite souvent ce petit télégramme qui est contenu aux archives de Brest dans la série V d'un maire qui écrit au préfet qu'il n'a pas pu. Et simplement, il est simplement indiqué sur Telegram, impossible sonner, curé prend revolver. Ça donne une idée de l'intensité que pouvait atteindre ce type de conflit.
Alors, c'est une pépite, ça, quand un historien trouve quelque chose comme ça, il a
l'impression
un chercheur d'or devant une pépite. Hein.
Si vous songez que certains anticléricaux, je l'ai vu dans leur Éloire, ont décidé, de maires anticléricaux, de sonner les divorces. Je sais pas si vous voyez.
Ça, c'est magnifique.
Alors,
après, au moment de la loi Naquet sur le divorce.
Plus tard, je crois. Je ne me souviens plus de la date. Mais vous imaginez la gifle, en quelque sorte, pour le curé, de laisser faire ça. Donc, il faut prendre au sérieux, je crois. C'est, parce que ça nous fait sourire, hein, aujourd'hui. Mais sur le terrain, sur le champ, je crois que c'est plein d'affects extrêmement profonds, non?
Oui, ce sont plus des sourires de tendresse que des sourires de dérision, me semble-t-il.
Oui. Il y a une chose qui est très importante dans ce domaine, c'est que on ne pouvait pas sonner n'importe comment au 19e siècle. Le curé ne pouvait pas sonner. Il y avait un règlement de cloche, département par département. En général, ça correspondait à un diocèse, pas toujours, mais en général. Et le curé et l'évêque contresignaient ce règlement. Et dans ce règlement, il y avait par exemple la durée des volées. Et je me souviens évidemment que, il est évident que sous la Troisième République, le préfet a cherché à restreindre cette durée. Et je me souviens de communes dans lesquelles la volée, le curé s'en est à la volée, était limitée à 30 secondes. C'était vraiment, là encore, une gifle pour le curé. Et je me souviens aussi de débats, c'est-à-dire que le maire envoyait le garde champêtre avec son chronomètre, qui était assez récent dans les campagnes, pour bien vérifier que ça ne dépassait pas les 30 secondes, ou du moins, minute 30, 2-3 minutes, ce qui était indiqué sur le règlement campanaire.
C'est le même garde champêtre qui jouait le rôle souvent de tambour municipal, oui. Qui venait fournir une sorte de concurrence à l'information.
Oui, ça fait partie du paysage sonore de la commune.
Alors restons dans le domaine politique, au sens le plus large du terme, parce que les cloches ont aussi joué un rôle pour scander les grands moments de la collectivité, au moment des guerres en particulier. Je vais vous faire écouter André Dassary. Il n'a pas été trop farouche à l'égard du régime de Vichy jusqu'en 1944, mais en 1944, après la libération, il chante les cloches du retour. Vous allez voir la métaphore assez aisée à décrypter.
C'était au temps des bonnes fées, où le soleil toujours se lève sur un paysage enchanté. Le roi aimait une bergère, à la folie elle l'aimait. Il dut partir, adieu bergère, si tu m'attends, je reviendrai. À bonnes gens, voyez, voyez, notre roi s'en va guerroyer. Cloche sonnée tour à tour, et protéger leurs amours. Cloche du haut de la cour, vous sonnerez tout le jour. Vous sonnerez toujours. Sage la bergère, protégea de loin son amour, car un jour les cloches sonnèrent, carillonnant pour son retour. En France, ce pays de rêve, il y aura toujours des fées. Chez nous jamais, rien ne s'achève, car notre espoir toujours renaît. À braves gens, croyez, croyez, ils reviendront et par milliers. Cloche sonnez leur retour, cloche sonnez tour à tour, cloche du haut de la tour, cloche sonnez le grand jour.
Bien compris, Alain Corbin, que le roi qui est parti à l'extérieur, c'est la résistance française qui revient saluée par les cloches du Tédéum. Beaucoup de témoins de la libération de Paris racontent leur émotion à entendre les cloches, notamment de Notre-Dame, sonner à la volée. C'est tout un thème, les cloches et la guerre.
La cloche et la guerre, les victoires étaient sonnées. C'est extrêmement important dans les campagnes, parce qu'on n'avait pas ce qui se passait, pensez aux guerres napoléoniennes. Beaucoup de rumeurs couraient. Or, la cloche, c'est celle qui détruit la rumeur en disant la vérité, en quelque sorte, parce que c'est la voix de l'autorité. Donc on dit qu'une victoire a été remportée, mais tant que on ne l'a pas sonnée, on n'est pas sûr de cette victoire. Il faut bien comprendre cet effet d'attestation, je ne sais pas comment dire, de la cloche dans une société qui est parcouru de multiples rumeurs en temps de guerre, notamment. Pas seulement en temps de guerre, ça peut être en temps de révolution, la grand-peur qui parcourt la France en diagonale, en quelque sorte au début de la révolution, est rythmée par le tocsin. Et le tocsin...
L'été 1789.
Oui, le tocsin est capable de déclencher les révolutions. C'est pourquoi, lors du coup d'État du 2 décembre 51, l'équipe qui est autour du prince-président Louis-Napoléon a fait remonter les cordes dans toutes les églises de Paris.
Ah oui.
Pour être tranquille. Ah, ça, c'est extrêmement important et significatif. Je me souviens, en revanche, d'un jeune homme de 16 ans qui a été guillotiné au début de la Restauration parce qu'il était accusé d'être monté dans le clocher pour sonner le tocsin, pour déclencher des troubles. Je crois que c'est en 1816 ou 1817. Donc c'était extrêmement sérieux. La maîtrise des cloches...
Jusqu'à la guillotine.
Ah oui, la maîtrise des cloches, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'encore une fois, ça dit la vérité. Ça annonce l'arrivée de l'ennemi aussi. Et alors, vous évoquiez les grands moments alors de déclaration de guerre ou de victoire.
1914, 1911 novembre,
oui, 18. Bien sûr, tout a été sonné, hein. Je me souviens même d'un paysan qui me disait qu'à Essé, dans l'Orne, on avait sonné la mobilisation de 39. Donc vous voyez, alors évidemment, on pense tout de suite à la victoire, enfin à l'armistice de 18, aux sonneries de victoire, etc. Mais vous voyez, même la mobilisation, et ça, c'est au XXe siècle, ça. Ne parlons pas là du XIXe, où tout était absolument sonné. On ne pouvait pas comprendre l'histoire de ce qui se passait dans une commune si on n'écoutait pas les cloches.
Alors je voudrais que nous en venions maintenant... Nous avons évoqué le combat pour obtenir l'accès aux cloches, la naissance d'une intolérance au bruit, autour du thème en particulier du droit au sommeil. Mais d'abord, on constate une réticence en milieu rural de la part des autorités au moment des épidémies. Je trouvais ça intéressant.
Ah, oui.
Par exemple, au moment du choléra, lorsque les curés ont tendance à sonner les cloches et où les préfets, les sous-préfets disent qu'il faut l'interdire parce que ça créerait dans les esprits, je cite l'un d'entre eux, des frayeurs très dangereuses qui peuvent troubler la marche des maladies et quelquefois les rendre mortelles.
Oui, parce que ça correspond d'ailleurs à la médecine du temps. Hein, l'idée de l'influence du moral sur le physique, des rapports du physique et du moral de l'homme. Donc ça, c'est tout à fait significatif.
L'évêque de Valence ordonne en 1806 que, en de telles circonstances, les prières des funérailles se feront à voix basse.
Ben oui, pour les mêmes raisons, parce que quand on voit tout le monde mourir autour de soi, ça ne peut qu'inquiéter.
1832, choléra, le maire de Bettencourt en Haute-Marne décide par arrêté d'interdire l'usage de la grosse cloche, ainsi que tout carillon, et défend de sonner les morts et les enterrements.
Oui, c'est pour la même raison. Là. C'est absolument évident.
Seuls les angélus ou heures de travail pourront être annoncées, mais le moins longtemps possible. Ah. Et la messe.
Ouais. Ah oui, il y avait toute une série. Ils étaient capables d'interdire, effectivement. Ils avaient la force d'interdire. On avait aussi l'obligation de ne pas sonner les fêtes supprimées. C'est-à-dire que le premier consul, Bonaparte, avait supprimé toute une série de fêtes religieuses que beaucoup de curés voulaient continuer de célébrer. Donc il était interdit de les sonner. Alors, en ce qui concerne les nuisances, puisque vous en parliez, moi, je crois que ça s'intègre à quelque chose de plus large, qui est justement la sensation du tolérable et de l'intolérable dans le domaine sonore.
Ça nous ramène directement au récent conflit devant le tribunal d'Aix-les-Bains, que j'évoquais commençant, entre le rural et le urbain.
On a beaucoup toléré, durant la première moitié du 19e siècle, on tolérait des bruits épouvantables. Pensez qu'à Paris, par exemple, il y avait des forges en appartement. Oui, ça existe, des petites forges en appartement. Bon, il y avait les bruits artisanaux étaient épouvantables. Eh bien, les gens s'en plaignaient, mais pas trop. Beaucoup moins que des odeurs. Voilà. Hein, jusqu'à un certain moment. Et vers le milieu du siècle, sous le Second Empire, on assiste à une sorte de basculement, une intolérance nouvelle à l'égard de la trépidation et du bruit. Le basculement se produit sous le Second Empire. C'est vraiment sous le Second Empire qu'on voit se développer une littérature hostile à la sonnerie des cloches du matin. Et le grand photographe Nadar
joue un rôle essentiel.
A été à l'avant-garde. Il a même publié un opuscule sur cette affaire.
Le droit au loisir et le droit au silence.
Voilà. Et qui ne voulait pas être réveillé par une insurrection de chaudronnerie, je crois. Alors évidemment, il y a beaucoup d'anticléricalisme derrière tout ça.
Oui, il parle de la guerre nécessaire contre ce bruit abusif, immotivé, incompatible avec tout droit et avec notre liberté. Voilà. Un peu grandiloquent, mais assez efficace.
Oui. Alors, quelle était l'extension de cette sensibilité? Ça, c'est extrêmement difficile à définir. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il ne semble pas avoir été très entendu, Nadar. C'est-à-dire qu'on a supporté véritablement le bruit des cloches, et même dans les campagnes, jusqu'à une date toute récente, c'est-à-dire jusqu'à l'afflux des Parisiens achetant des maisons de campagne, non plus les bourgeois installés dans des belles maisons à la campagne, mais des Parisiens achetant ces maisons souvent délaissées.
Et maintenant, des gens qui viennent travailler grâce à Internet à la campagne, de dessinateurs industriels,
et
que
nous
évoquions tout à l'heure par rapport aux clochettes des vaches.
Oui, les Anglais aussi, etc. Donc,
les Anglais, maintenant, s'intéressent beaucoup aux cloches françaises de ce point de vue-là.
Oui, mais je veux dire, ceux qui s'installent sont parfois surpris.
J'apprends que vous avez fait une émission à la BBC récemment à cause de ça. Tout à coup, les Anglais s'intéressent à nos cloches.
Alors, il y a une sensibilité nouvelle. Mais elle ne touche pas, je dirais, que les cloches. Elle s'est liée à l'histoire du rythme nictéméralter, du partage entre le jour et la nuit, qui a beaucoup bougé. Et il est évident qu'on se couche plus tard et qu'on se lève plus tard aussi. Et que par conséquent, si on conserve les mêmes horaires des cloches, ce qui était tolérable devient intolérable. Sans compter que, ça c'est très peu connu, qu'avant la fixation de l'heure légale, la cloche n'était pas sonnée, selon les départements, au même moment en été et en hiver. Il y avait donc une sorte d'heure d'hiver et d'heure d'été,
déjà,
campanaire,
déjà,
qui n'a jamais été véritablement étudiée parce qu'elle est éparpillée selon les règlements de cloche.
Alors, au travail. Mais alors, pour évoquer ce type d'affrontement entre les citadins et les ruraux, écoutez ce témoignage du maire de Carmet, c'est près de Beauvais, dans l'Oise. Et c'est un document qui remonte au 15 août 1980, je crois que vous allez le trouver comme moi, tout à fait explicite.
Dans la petite commune de Cormeil, près de Beauvais, un face-à-face oppose le maire à l'un de ses administrés, M. Decaf, ancien ouvrier de Renault en retraite, installé depuis 10 ans dans ce village. Objet du litige, la cloche de l'église qui sonne la nuit et qui empêche M. Decaf de fermer l'œil. Prêt à tout pour faire cesser ce calvaire, M. Decaf vient de commencer une grève de la faim, vous l'avez entendu à 6h30, mais à entendre M. le maire, rien n'y fera, la cloche continuera de sonner car c'est une vieille habitude. Le dialogue de sourds est total, pourtant avec un peu de bonne volonté. Écoutons les explications de M. Cadet, le maire.
Il faudrait acheter une pièce qui coûte 207 000 francs et le conseil a refusé à l'unanimité de voter les crédits. Donc moi, comme maire, je ne peux absolument rien y faire. Bon, deuxièmement, la population à 95%, si ce n'est pas 99%, est pour que la cloche sonne. Il y a uniquement M. Decaf qui veut qu'elle ne sonne plus. Bon, on n'y peut rien. Et les pétitions ont été signées par des Parisiens qui étaient là pour quelques jours. Dans toutes les campagnes, elles sonnent la nuit. N'importe dans quelle campagne, vous pouvez faire le tour de toute la région, toutes les cloches sonnent la nuit. C'est une vieille tradition. Moi, les gens, ils veulent que ça sonne, j'y peux rien. Bon, je peux pas. Et il y en a qui ont dit, si on arrête, on fera à notre tour la grève de lapin. Alors, ça va être un jeu éternel. On va être un village vedette bientôt. D'après moi, c'est comme ça que ça va se terminer.
Tout est dit, me semble-t-il. Tout est dit. Vous avez remarqué sûrement, et salué Alain Corbin, la formule dialogue de sourds. Je ne sais pas si le journaliste s'est aperçu de la congruité de son propos.
Oui, mais il ne faut pas perdre le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'il dit c'est une vieille habitude. Donc,
pas plus que de l'humour.
C'est une vieille habitude. Mais en fait, cette habitude décline. Je veux dire qu'au XIXe siècle, c'était absolument indispensable d'écouter la cloche. Parce que lorsqu'il y avait un mort, par exemple, il y avait un langage selon les communes qui vous indiquait si le mort était un homme ou une femme, un jeune ou une vieille, s'il était marié, s'il n'était pas marié, etc. Il y avait une rhétorique des cloches qu'on devait savoir. Tout le monde comprenait. Il s'agissait d'un incendie. C'est très important, donc il fallait y aller.
Et avant les sirènes.
Et c'était pas autre chose. Et je me souviens de deux petites communes de l'Orne dans lesquelles le curé venait d'une autre paroisse, avait sonné un baptême pour ce qui était pour les gens un baptême, alors que il y avait un incendie, si vous voulez. Donc il fallait connaître la rhétorique des cloches de ça. Commune. Mais on ne pouvait pas vivre sans ça. Je veux dire, on avait vraiment besoin. Je parle de l'incendie, je parle de la mort. Vous voyez, des choses très importantes. Vous parliez tout à l'heure de l'arrivée du taureau, du percepteur, ou de la corvée,
non, le taureau, c'était vous.
Oui, l'enlèvement des ordures. Il fallait savoir tout ça. Or, il est évident que ce maire qui parle de l'habitude et de l'attachement se réfère quand même à quelque chose de plus simple. Je crois que les gens n'écoutent plus les cloches pour toutes ces raisons-là. Sauf peut-être encore pour les décès. quand on sait que le père ou la mère a un tel à la campagne, hein, quand on savait que le père était quasiment mourant, ben, l'attention se portait quand même. L'attente du glas. Hein, l'attente du glas. Et c'était quelque chose d'important, parce que c'est toute la commune, ou toute la paroisse, je voudrais dire, qui participait à l'agonie, hein, d'une certaine façon. Vous voyez, c'est important.
On le voyait jusque dans la chanson de Charles Trenet, avec oui. laquelle nous commencions cette conversation. On voit monter dans cette évolution des sensibilités au 19e siècle, sur un fond de permanence de l'attachement aux cloches, on voit monter la protestation urbaine. C'est tout à fait intéressant. On peut citer Baudelaire, un célèbre poème de Baudelaire qui disait « Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. »
Oui, c'est magnifique. Il est très attentif au bruit de la ville.
Baudelaire.
Oui. Et à l'arrêt des bruits. Le dimanche, par exemple, c'est la machine qui s'arrête, quelque chose d'inquiétant.
Les communautés rurales, en somme, ont trouvé d'autres symboles de leur identité avec, au 19e siècle.
Oui, non seulement d'autres symboles de leur identité, non seulement les communautés rurales, mais les villes. C'est-à-dire que ce succès des cloches, cette sensibilité aux cloches, provenait du fait qu'on avait absolument besoin de les écouter. Or, avec la diffusion de l'écrit, de la lecture, de l'écriture, de la proclamation, des affiches sur les mairies, avec l'arrivée du camion de pompiers, de la sirène des pompiers, à la ville comme à la campagne. Enfin bref, toute une série de processus ont fait qu'on n'a plus besoin, progressivement, on a perdu le besoin de l'écoute. Et la perte du besoin de l'écoute a entraîné la perte de l'attention. Et alors que les cloches aujourd'hui sont, paraît-il, les meilleures qui n'aient jamais existé, du point de vue technique, du point de vue sonore, du point de vue de leur intensité, nous l'avons vu avec le fondeur de cloche tout à l'heure,
oui.
Eh bien, on les entend mal. On les entend mal parce qu'on ne les écoute plus. On les entend mal aussi parce qu'il y a ce bruit continu. Mais surtout parce qu'on ne les écoute plus, on ne les écoute plus parce qu'on n'a plus besoin de les écouter.
Et aussi peut-être...
c'est tout un...
Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'histoire campanaire bascule au moment où l'analphabétisme devient minoritaire?
Oui. Puisque tout ce langage des cloches qui vous donnait des renseignements que maintenant peuvent vous donner les affiches, que peuvent vous donner... alors évidemment la radio et la télévision, ça disqualifie complètement. Et les cloches sont reflux en quelque sorte. Elles n'ont plus guère d'intérêt que, comment dire, musical peut-être et d'appel à la prière. Hein. Je crois que ce sont de convocations aux cérémonies religieuses, ce qui a toujours été le cas. Mais c'était beaucoup plus subtil, hein. Naguère, par exemple, je reviens à des communes rurales du 19e siècle, non seulement on sonnait un peu avant le début d'une messe, mais on teintait les phases de la messe. Par exemple, l'élévation de l'hostie au moment de la transsubstantiation pour les catholiques, l'élévation était souvent teintée.
Oui.
C'est-à-dire que ceux qui n'assistaient pas à la messe savaient qu'on en était à l'élévation. Si vous voulez, oui. Ce sont des subtilités qui, évidemment, n'ont plus de sens, me semble-t-il.
Alors, nous acheminons, hélas, Alain Corbin, vers la fin de cette conversation. Je voudrais la clore avec un extrait d'une opérette, un opéra comique célèbre de 1877 qui s'appelle, vous attendez ce que je vais vous dire, sûrement, Les cloches de Corneville. Les paroles sont de Clerville et la musique de Planquette. L'action se passe à la fin du règne de Louis XIV, dans la petite ville de Normandie qui s'appelle Corneville. Elle existe réellement, en fait. Le château est abandonné, mais une légende veut que les cloches se mettent à sonner quand en reprendra possession le légitime propriétaire, d'où ces terres restées fameux.
Et qu'on de l'exil joyeuse. Depuis qu'il se tait, s'éloignent les amours. Ce chaton nous cause une frayeur affreuse. Et voilà pourquoi nous répétons toujours.
Et voilà pourquoi nous répétons toujours.
Digue, 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 don. Sonne, 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 don. Digue, 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 don. Sonne, sonne, don, joyeux carillon.
Sonne, sonne.
C'était donc les cloches de Corneville, 1877, Germaine, interprétée par Marta Angelici, qui chantait la chanson des cloches. Alain Corbin.
Bon, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup souligné, c'est l'association de la fête, de la liesse et de la cloche.
Mais il faut terminer ça, terminons sur une note allègre.
C'est très bien mis en valeur à propos d'une région campanaire particulière qui est, comme je l'ai dit, la Normandie. Donc, il y a quelque chose de tout à fait cohérent. Mais si l'on songe qu'il s'agit de 1877, c'est-à-dire au moment du triomphe de la République, c'est-à-dire au moment où vont se déclencher ces luttes entre le maire et le curé, si vous voulez, au niveau municipal, il y a là la preuve que la cloche est encore extrêmement importante. Parce qu'une telle opérette, c'est d'ailleurs pas une opérette, c'est un opéra comique. La prétention d'un opéra comique, bon, je crois que n'aurait guère de succès aujourd'hui. Il fallait vraiment que les gens s'intéressent aux cloches.
Donc vous ne recommandez pas à un producteur de relancer les cloches de Corneville. On verra bien, peut-être que cette émission aura cet effet. Merci beaucoup Alain Corbin, merci. Votre livre majeur s'appelle « Les cloches de la terre, paysages sonores et cultures sensibles dans les campagnes au 19e siècle », publié chez Albin Michel en 1994 et repris en poche collection Chant en l'an 2000. Et puis j'ai reçu aussi le livre d'Hervé Gouriou qui vient de paraître et qui s'appelle « L'art campanaire en Occident, histoire, facture et esthétique des cloches de volée ». Là, c'est l'étude d'un musicologue. Vous ne l'avez pas encore lu ?
Non, mais je vais le faire.
Eh bien, comme dirait Bernard Pivot, je vous le donne. Je rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur le site internet de France Culture ou bien, si vous le souhaitez, pour Balado Diffusion, la télécharger. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau, Meryl Moneghetti, Nathalie Rouvillain, Patrick Molinier, Annick Brien et pour les archivinats, Véronique Jolivet. Vous venez d'entendre le bruit des cloches, bonheur ou nuisance, une émission qui remonte à 2006.
Podcast, avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.